Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Marion Calais, Julien Cellier, bonsoir les amis.
Bonsoir Myriam.
Bonsoir Myriam, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour deux heures d'infos avec vous et pour vous. Et à la une, la traque des vieilles voitures dans nos centres-villes. Et si vous tentez de vous faufiler, eh bien la patrouille vous rattrapera.
Vous serez automatiquement repéré et il faudra passer à la caisse. Première contravention d'ici 8 mois dans les plus grandes métropoles du pays. À suivre aussi le dernier acte judiciaire sur les attentats du 13 novembre avec des victimes désormais reconnues. L'émir du Qatar, pas content qu'on critique son pays à moins d'un mois du mondial. Et puis RTL en Ukraine, au cœur des villages libérés mais dévastés et où certains habitants malgré tout ont tenu à rester.
À 18h15, un invité en mer, ce n'est pas commun, face à Saint-Malo. Thomas Coville, l'un des favoris de la route du Rhum, les bateaux arrivent dans la cité corsaire, entrée au port attendue par des milliers de spectateurs à 10 jours du départ. Dans RTL Soir également, la brigade qui enquête sur les vérités d'Agnès Buzyn sur le Covid. L'ex-ministre a-t-elle alerté en vain l'Elysée et Matignon? Dans une demi-heure, il y aura vos dessous de l'actu, match à haut risque au Parc des Princes ce soir, mais aussi laissez-vous tenter dernière puisqu'on connaît, ça y est, les finalistes du Goncourt. 18h40, on va défaire le monde. Les 20 minutes d'info autrement avec Cyprien Sini et compagnie. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Ce soir, on vous emmène à la recherche du très convoité lithium, ça ressemble à quoi? Quelle matière? Quelle couleur? Vous allez tout savoir. Au menu également, des bagarres entre des bandes de furets et des bandes de rats dans les parcs marseillais et un congé maladie qui fait jaser.
Tout le monde se regarde, le coup des furets, ouais. Ça donne envie d'écouter. Restez à l'écoute. 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbeumont et puis le temps très régulièrement avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance toujours estivale.
Toujours des températures très douces depuis d'ailleurs quelques jours. Aujourd'hui, là où il a fait le plus chaud, par exemple, c'est à Conca en Corse. Écoutez bien, 32 degrés, 12 degrés de plus que la normale, 31 à Calvi, 30 à Combeau-les-Bains dans le Pays Basque aussi. À Biarritz, 28, on est 9 degrés au-dessus des normales. Aujourd'hui, il a fait 26 à Toulouse, 8 degrés au-dessus des normales. Et ça va continuer parce qu'on a une masse d'air encore plus chaud qui va remonter sur le pays. À partir de jeudi, on gagnera encore 1, voire 2 degrés.
Ce n'est qu'un début. À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et il faudra donc payer. Les automobilistes qui bravent l'interdiction des véhicules les plus polluants en centre-ville seront bientôt sanctionnés.
Annonce du gouvernement une semaine après la nouvelle condamnation de l'État pour la pollution de l'air toujours trop forte dans plusieurs villes. Bonsoir Marie Guerrier.
Bonsoir.
Des amendes automatisées jusqu'à 68 euros, mais pas pour tout de suite et seulement dans certaines villes.
Oui, l'automatisation est prévue après l'été 2024, en gros dans 2 ans. Les dispositifs techniques restent à préciser. Hein, des caméras ou des portiques, peut-être d'autres systèmes encore, on ne sait pas pour l'instant. Actuellement, 11 agglomérations ont déjà mis en place des restrictions de circulation pour les véhicules les plus polluants, dont Paris et la Petite Couronne, où théoriquement, les véhicules aux vignettes critères 4 et 5 n'ont déjà plus le droit de circuler, c'est-à-dire les diesels de plus de 18 ans. À Paris, l'adjoint à la mairie, hein, David Bayard, plaide d'ailleurs pour l'instauration de contrôles le plus rapidement possible, parce que jusqu'à présent, aucun automobiliste n'a été sanctionné. Les autres agglomérations qui ont déjà des zones à faible émissions sont Rouen, Reims, Strasbourg, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Nice, Aix-Marseille, Montpellier et Toulouse. Et à l'horizon 2025, ce sont les 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants qui seront concernées. Les véhicules qui ne pourront plus alors circuler seront les critères 3, 4 et 5, c'est-à-dire les diesels de plus de 12 ans et les voitures essence de plus de 18 ans.
Alors à Paris, vous le disiez Marie, véhicules critères 4 et 5 déjà interdits et cette interdiction sera élargie en juillet prochain aux vignettes critères 3.
Bonsoir Alexandre de Saint-Aignan.
Bonsoir.
Vous vous êtes rendu pour RTL à Aubervilliers, donc on est aux portes de Paris où cet élargissement va contraindre la moitié des véhicules environ à rester au garage.
Oui, parmi les voitures en réparation chez ce garagiste d'Aubervilliers, la plupart n'auront bientôt plus le droit de circuler.
Vignette 4, elle est devant vous. Telle la vignette 3.
Donc elle aura plus le droit de rouler dans quelques mois.
Ouais, vignette 2, ça va. Ça, c'est une vignette 3.
D'ailleurs, ce véhicule critère 3, il a été acheté d'occasion il y a 6 ans par Désiré, un automobiliste visiblement pas au courant de la prochaine interdiction.
Je ne savais même pas.
Là, vous avez une vignette critère 3. Ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, vous avez le droit de rouler. Par contre, à partir du mois de juillet, là, vous aurez plus le droit.
Et qu'est-ce qu'il me faut? Il faut changer de voiture. Il n'y a pas tout le monde qui a le moyen d'acheter une nouvelle voiture. Hein, il faut la vendre. Et même si je la vends, je ne peux pas la vendre. Qui va l'acheter?
Souaïla, elle tente de se débarrasser de sa Mégane diesel de 2006, vignette critère 4. Elle n'est même pas censée pouvoir rouler avec.
Voilà, je vais lui vendre ma voiture, c'est tout. Ben, je marcherai à pied, tout simplement parce que j'ai pas les moyens de me racheter une autre voiture.
Tous les automobilistes que j'ai pu croiser à Aubervilliers m'assurent qu'ils continueront à rouler quand même malgré l'interdiction, en tout cas jusqu'aux premières amendes.
Un reportage à Aubervilliers, Alexandre de Saint-Aignan pour RTL.
RTL Soir.
Et c'est un chapitre qui se ferme 7 ans après les attentats du 13 novembre. Le dernier acte aujourd'hui de la justice sur cette soirée d'horreur, la Cour d'assises spéciale de Paris vient de rendre son arrêt civil qui suit tout procès.
Et ce qui est marquant, Cindy Hubert, bonsoir.
Bonsoir.
C'est que la justice accorde le statut de victime du terrorisme à des hommes, à des femmes qui jusque-là n'avaient obtenu aucune reconnaissance.
Oui, les habitants de l'immeuble de Saint-Denis, vous savez, cet immeuble où s'étaient retranchés 2 terroristes des commandos. Quand le raid lance l'assaut, ces familles se sont retrouvées piégées au milieu des tirs. Elles ont tout perdu, leur logement, leur travail, leur santé pour certains. Et pourtant, la justice leur refusait jusqu'à présent le statut de partie civile. Ces familles n'ont pas touché 1 euro pendant 7 ans. Alors même qu'on l'a entendu au procès, beaucoup sont toujours traumatisés, comme cette petite fille d'une famille accompagnée par Maître Mou.
Elle creusait avec ses mains, enfant de 8 ans, le plâtre en cas pour se faire une cachette de sa chambre en cas où les terroristes revenaient. Et tous les soirs, elle avait les mains en sang. Et là, je pense, pour cette famille comme d'autres, c'est une reconnaissance. Puis en même temps, c'est une façon de dire que la République, quand même, elle reconnaît les droits pour tous. Parce que, on m'a dit, oui, citoyens de seconde zone, ils habitent en Seine-Saint-Denis. Ils vont pouvoir être indemnisés déjà. C'est très important, comme toutes les victimes de terrorisme.
Autre surprise dans les 209 pages de cet arrêt civil. Jusqu'ici, ceux qui étaient intervenus quelques secondes après les attaques pour porter secours étaient classés dans la catégorie témoins malheureux. Aujourd'hui, la justice les reconnaît officiellement comme victimes, au même titre que ceux qui étaient directement visés par les tirs.
La justice qui a aujourd'hui relaxé par ailleurs Éric Piolle, le maire de Grenoble, dans l'affaire de favoritisme dont il était soupçonné pour l'attribution d'un marché public par sa ville. Et puis à Lyon, l'ouverture d'une enquête là pour provocation publique à la haine, investigation lancée après la manifestation de vendredi soir qui a rassemblé une centaine de personnes issues des milieux d'extrême droite en réaction à la mort de Lola.
À La Clusaz maintenant, en Haute-Savoie, il n'y aura donc pas de retenue d'eau pour alimenter les canons à neige, en tout cas pas tout de suite.
En attendant une décision sur le fond, le tribunal administratif de Grenoble a suspendu aujourd'hui l'arrêté autorisant les travaux au nom de la préservation du milieu et des espèces qu'il abrite. 8 hectares de forêt sont menacés. Les opposants se réjouissent, mais le maire ne renonce pas. Vous l'avez constaté à La Clusaz pour RTL, Serge Puyot.
La décision du juge administratif de Grenoble a été accueillie comme il se doit par les zadistes du bois de la Colombière. Une joie intense pour Pierre.
C'est extraordinaire, c'est l'extase, moi c'est même un orgasme, voilà, donc c'est pour vous dire. Et c'est une histoire incroyable, on a des citoyens qui sont mobilisés, c'est dire stop à ces projets démesurés.
Le sentiment d'avoir sauvé la forêt ?
Ah bah c'est qu'on l'a sauvé, c'est quand même carrément, parce que s'il n'y avait pas eu la ZAD, la forêt elle aurait été détruite. Une fois que c'est détruit, les 58 espèces protégées, c'est fini pour elles, et donc là oui, on a gagné.
Pour les élus de La Clusaz, en revanche, c'est la douche froide, mais le maire Didier Thévenet ne veut pas baisser les bras.
C'est une décision provisoire. La mairie de La Clusaz va se pourvoir en cassation, car ce projet est légitime et indispensable pour la fourniture en eau de notre population. Notre objectif est de trouver un juste équilibre entre le développement économique et le développement durable au bénéfice des habitants qui vivent sur notre territoire.
Vous ne renoncez pas au projet ?
Absolument pas. Au contraire, parce que c'est un vrai besoin pour la population, pour conserver les 2000 emplois créés par le ski.
Il faudra donc attendre de nouvelles décisions de justice pour savoir si ce projet verra ou non le jour.
Et un projet que l'on continuera à suivre avec Serge Puyot pour RTL, le monde du ski face à la nature. Comme pour les hommes, la descente femme de ce week-end prévue entre la Suisse et l'Italie a été annulée. Trop chaud, pas assez de neige.
Et votre journal se poursuit dans un instant avec une autre compétition, la Coupe du Monde de foot au Qatar. Ça approche, le petit pays est très critiqué et son émir n'est pas très content. A tout de suite sur RTL.
Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15.
RTL Soir,
Julien Cellier, Marion Calais.
18h10, la suite de votre journal, vous écoutez RTL Soir. Il prend rarement la parole et s'il le fait aujourd'hui, c'est pour dire qu'il n'est pas content, tout en balayant les critiques. Les mots ce soir, de l'émir du Qatar à moins d'un mois du début du mondial de foot.
Discours devant le conseil législatif à Doha, alors que le Qatar est pointé du doigt, que des appels au boycott sont lancés pour la gabegie environnementale de la compétition, pour les atteintes aux droits de l'homme ou les conditions de travail dans le pays. L'émir du Qatar dénonce même une campagne menée à l'encontre de son pays.
Depuis que nous avons gagné l'honneur de recevoir la Coupe du Monde, le Qatar fait face à une campagne sans précédent qu'aucune autre nation n'a jamais affrontée. Au départ, nous avons géré en toute bonne foi, en prenant en compte les critiques positives et utiles, en développant certains aspects. Mais depuis, il est clair que la campagne continue, s'étend même. Il y a de la calomnie et du deux poids deux mesures avec un niveau d'acharnement qui amène de nombreuses personnes à s'interroger sur les véritables motivations de cette campagne.
L'émir du Qatar, par ailleurs propriétaire du PSG, dont le club joue ce soir la Ligue des Champions, PSG face à Haïfa à partir de 21h, RTL Foot dès 20h45, un match classé à haut risque, et on reviendra sur ces enjeux liés à la sécurité autour de cette rencontre tout à l'heure dans les dessous de l'actu aux alentours de 18h30.
18h, 19h15. RTL Soir.
RTL ce soir également au cœur de villages dévastés en Ukraine. On va retrouver nos envoyés spéciaux sur place.
Émilie Beaujard, accompagnée de Jonathan Griveaux. Bonsoir Émilie.
Bonsoir.
Vous vous êtes rendu pour RTL dans des villages récemment libérés autour de Kherson, cette ville du sud du pays toujours aux mains des Russes. Village détruit, mais où quelques habitants ont tenu à rester malgré tout.
Oui, il y a encore quelques semaines, ces villages étaient sur la ligne de front. Les combats ont été violents et ont duré plusieurs mois. Les destructions sont considérables. Pas une maison n'a été épargnée. Les toits soufflés dans les explosions, les vitres explosées, les trous d'obus sur la chaussée. 6 mois d'enfer, comme nous le racontent les habitants. Toutes les nuits à dormir dans leur cave, creusée sous leur maison. On y tient à peine debout. Une jeune fille de 14 ans nous raconte être restée terrée chez elle pendant toute la durée de l'occupation. Elle n'a jamais mis un pied dans la rue, trop peur d'être violée par les soldats russes. Dans un autre village, une dame nous fait signe de la suivre. Une maison plutôt cossue avec plusieurs sous-sols. Eh bien, toutes les pièces ont en fait servi à détenir des habitants du village. Dans leur retraite, les Russes ont aussi laissé beaucoup d'affaires derrière eux, des uniformes et même un casque qui date de la Seconde Guerre mondiale.
Émilie Beaujard et Jonathan Griveaux, envoyés spéciaux de RTL en Ukraine. Notez que ce soir, le Conseil de sécurité de l'ONU discutera à huis clos des accusations de la Russie sur la fabrication par Kiev d'une bombe sale.
Merci Marion et à tout à l'heure. Le temps pour demain, Peggy, avec des températures qui sont encore anormalement élevées pour la saison.
Et largement au-dessus des normales, c'est vrai. Normalement, on devrait avoir 15 degrés en moyenne au nord et 18 au sud. Nous sommes à 18 demain à Brest pour la maximale, jusqu'à 29 degrés à Ajaccio, 20 au Havre, 22 à Dijon, 23 à Paris, 25 à Clermont-Ferrand, 27 à Marseille. Côté ciel, alors ce sera un temps plutôt calme, même s'il restera des averses sur les frontières du nord le matin et également des averses sur la Bretagne. Ce sera plus nuageux au nord de la Loire. Un temps bien nuageux sur le Languedoc avec des entrées maritimes, ailleurs lumineux. Et dans l'après-midi, encore quelques gouttes entre la Bretagne et le Cotentin. Encore nuageux sur le Languedoc et ailleurs, ce sera du beau temps.
Merci Peggy.
La brigade RTL Soir.
Et la brigade RTL s'intéresse aux vérités d'Agnès Buzyn sur le Covid. Souvenez-vous, elle était ministre de la Santé au tout début de l'épidémie et le journal Le Monde s'est procuré son journal personnel potentiellement explosif rédigé à l'époque. Elle aurait alerté en vain l'Élysée et Matignon. On va poser 3 questions à Thomas Després. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Qu'est-ce qu'elle écrit exactement Agnès Buzyn ?
Eh bien que dès le 11 janvier 2020, soit 2 mois avant le confinement, elle écrit à l'époque à Emmanuel Macron et Édouard Philippe qu'une nouvelle pandémie sévit en Chine. À l'époque, le nouveau coronavirus n'a tué qu'une seule personne, mais elle écrit « L'information ne figure pas encore dans les médias, mais ça peut monter ». Puis quelques jours plus tard, elle insiste dans un deuxième message « L'OMS a pris la mauvaise décision de ne pas déclencher une alerte mondiale. Je suis à votre disposition pour faire un point de situation », un message auquel le président ne répond pas. Il faudra alors attendre jusqu'au 8 février pour qu'Agnès Buzyn parvienne à parler du Covid directement avec Emmanuel Macron. Selon son journal, elle est alors au cinéma lorsqu'Emmanuel Macron l'appelle. Elle lui explique les conséquences de ce nouveau virus, fermeture des frontières, arrêt des vols internationaux, confinement inéluctable. Réponse alors du plus proche collaborateur du président. Mais qu'est-ce que tu lui as dit au président l'autre soir? T'as réussi à lui faire peur. Nous ne sommes alors qu'un mois après les premières alertes d'Agnès Buzyn.
Dans les entourages d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, est-ce qu'on réagit ce soir?
Non, aucun commentaire d'un côté comme de l'autre. L'ancien Premier ministre qui a pris connaissance de cet article juste avant d'embarquer pour les États-Unis où il se rend en tant que maire du Havre ces jours-ci. Seulement un rappel, une enquête est en cours auprès de la Cour de justice de la République.
Agnès Buzyn, elle est mise en examen d'ailleurs dans ce dossier aujourd'hui.
Oui, c'est la seule mise en examen d'ailleurs pour mise en danger de la vie d'autrui. On a appris ce week-end qu'Édouard Philippe était simplement cité comme témoin assisté dans cette procédure, ce qui explique en partie la contre-offensive de l'ancienne ministre de la Santé.
La brigade RTL ce soir avec Thomas Després. Merci Thomas. On va marquer une petite pause et puis le plein d'embruns et d'ondes positives dans RTL Soir. Des milliers de personnes attendent ce soir à Saint-Malo. Les skippers de la route du Rhum, grande parade. Ils sont en train d'entrer les uns après les autres dans le port. On est à 10 jours du départ et on sera en ligne avec l'un des favoris, Thomas Coville, qui est en mer en ce moment face à la cité corsaire. A tout de suite.
Jusqu'à 19h15. RTL Soir avec Julien Célier. Julien Célier, l'invité d'RTL Soir.
Allez, RTL Soir, prends le large. Maintenant, on va vous offrir un grand bol d'air. Ça va nous faire du bien. C'est l'événement à Saint-Malo. Une foule compacte et massée sur les remparts ce soir. Pourquoi ? Parce que les bateaux de la route du Rhum sont en train d'arriver. Ils ont d'ailleurs effectué une parade cet après-midi à une dizaine de jours du départ de la légendaire course. Alors ce soir, ce sont les ultimes, ces géants des mers qui entrent chacun leur tour dans le port. On va rejoindre en mer, au large de Saint-Malo, l'un des favoris qui est en train de patienter sur son maxi trimaran Sodebo. Bonsoir Thomas Coville.
Bonsoir.
Alors ça y est, vous avez Saint-Malo en vue. Est-ce que c'est à chaque fois un émerveillement, un moment particulier tous les 4 ans avant la route du Rhum?
Je dois dire que cette cité corsaire, avec pour ceux qui sont jamais venus par la mer, ça ressemble à un décor de cinéma. Mmh. Et tous les 4 ans, Saint-Malo nous offre non pas un décor en carton, mais un vrai décor. Et c'est vrai que c'est particulier. Là, on arrive en plus d'un convoyage où on était donc ensemble avec l'équipe technique qui pendant 4 ans a navigué et travaillé sur ce bateau pour qu'on soit là. Et c'est un peu notre moment à nous. C'est un moment où chacun est à sa place, chacun sait ce qu'il a à faire.
Vous avez fait le tour de Bretagne ensemble en fait la nuit dernière, c'est ça, pour arriver jusqu'à Saint-Malo.
On s'est fait une simulation de départ au large de Cancale et c'est vrai que l'ensemble de la journée fait monter en fait fait monter l'émotion de ce que représente une route du Rhum tous les 4 ans.
Thomas, le premier défi de la course, c'est tout à l'heure. Là, dans un peu plus d'une heure, vous allez entrer dans le port. Il sera un peu plus de 19h et il va falloir passer par une écluse. Et votre bateau, il est tellement large que ça passe tout juste, c'est ça? Il y a quelques centimètres de chaque côté?
Ouais, alors je dirais que la première des choses, c'est d'être là, d'être présent. Et 138 bateaux, les 138 sillages qui arrivent aujourd'hui, c'est des gens qui ont passé effectivement plusieurs années pour avoir le droit d'être là. Mm-hmm. Et par contre, une fois qu'on est là, un bateau comme Sodebo, il faut qu'il rentre dans l'écluse. Et on a 35 cm de chaque côté.
Oh là là.
Donc, il ne faut pas se rater, il faut être concentré.
Oui, parce qu'un bateau comme le vôtre, ça coûte quand même quelques millions, donc il y a une certaine pression, non?
Ouais, c'est pas que ça, c'est que si on accroche l'écluse, si on accroche la porte de l'écluse, si on abîme le flotteur, la course est déjà presque perdue. Ouais. Quoi. Donc chaque moment met une certaine tension ou attention.
Pour que les auditeurs saisissent mieux, parce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on regarde à la télévision, sur un magazine, votre bateau et sa taille, ça correspond à quoi environ? En hauteur, en longueur, en largeur, pour qu'on ait un ordre d'idée?
Alors ça fait 32 mètres de long par 23 mètres de large et le mât fait 35 mètres. Imaginez un bateau où entre deux coques, vous auriez un terrain de tennis. Et la taille du mât, en fait, c'est quasiment un immeuble de 14 étages.
Ouais, c'est considérable. Il y a quelques années, sur RTL, je me souviens, vous nous aviez dit on est des pionniers parce qu'on est à bord, on est les premiers sur ces Formule 1 des mers, ces bateaux qui volent. Est-ce que vous avez encore l'impression d'être un pionnier, d'apprendre encore chaque jour? Ou est-ce que ça y est, avec l'expérience, vous commencez à mieux les maîtriser, ces géants des mers et leur potentiel?
Je crois que ce que je ressens aujourd'hui en arrivant à Saint-Malo, c'est que j'ai dépassé mon rêve. Et je pense que quand vous vivez une vie d'athlète ou quand vous cherchez à remplir une vie d'athlète, c'est quand effectivement ce que vous faites dépasse le rêve que vous auriez eu au départ. Jamais il y a 4 ans j'aurais imaginé pouvoir avoir le niveau qu'on a aujourd'hui en maîtrise de l'engin, de pouvoir là on s'est fait un run donc entre Cancale et donc le Cap Fréhel à plus de 40 nœuds, 1,50 m au-dessus de l'eau, en plein vol, en maîtrisant complètement le vol. Et ça, il y a 4 ans, c'était encore inimaginable. C'est fabuleux. Et l'époque, pour ça, est fabuleuse. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, et c'est peut-être le message qu'on peut dire avec RTL, notre époque, en tous les cas, pour notre milieu, est fantastique. Et on a envie d'entendre un peu ça, parce que c'est vrai
un message positif,
aujourd'hui,
effectivement.
Ouais, nous fait pas toujours rêver. Or là, nous, on est une génération bénie des dieux.
Alors, vous allez rêver, et les spectateurs aussi vont rêver, parce qu'à partir de ce soir, vous allez être mal loin pendant une dizaine de jours. Il va y avoir des milliers de visiteurs qui vont venir voir les bateaux. Moi, je me souviens, quand j'étais gosse, j'habitais pas très très loin de Saint-Malo, et je venais tous les 4 ans voir les bateaux. Ça ressemble à quoi, cette période, pour vous ? C'est un moment d'échange, de partage avec le public, ou alors est-ce qu'au bout d'un moment vous trouvez un peu le temps long et vous avez qu'une envie, c'est partir destination la Guadeloupe?
Moi j'arrive pas à me blaser de cet échange et de ce partage avec les gens qui viennent, parce que moi aussi j'ai été un gamin qui venait de Saint-Brieuc et qui venait tous les 4 ans voir le départ et qui venait avec sa classe et je me sens encore vraiment très très proche de ça. Je me sens encore finalement je me fais happer quelquefois par un regard derrière une barrière, par l'émotion d'un petit garçon, d'une petite fille qui pose une question qui sort de complètement son imagination. Et cette période-là, elle nourrit pour moi l'échange que j'ai envie d'avoir. Le jour où je serai blasé de ça, le jour où je serai plus capable de répondre à ça, je pense que j'aurai perdu la flamme. Je vais être seul, effectivement, le 6 novembre à partir sur ce débo, mais j'emmène avec moi, finalement, les gens avec qui je partage ça. Et ça me plaît.
Un mot de cette course de légende, donc destination la Guadeloupe, avec une sacrée concurrence hein, dans votre classe face à Armel Lecléache, Francis Joyon, Charles Caudrelier, François Gabart. Ce sont des grands noms. C'est une belle bataille sur le papier pour la victoire.
Ah ouais, là, c'est. Et encore une fois, il y a 4 ans, qui aurait imaginé qu'on serait aussi nombreux en ultime. Qui aurait imaginé qu'on aurait un plateau aussi relevé et aussi homogène? Et ça, c'est le travail de tout un milieu, de tout un écosystème qui a réussi à chaque fois se renouveler. Et c'est vrai que c'est une vraie fierté que de faire partie de ces noms qui vont s'affronter le 6 novembre.
Alors, belle bataille, mais j'ai aimé cette formule que vous aviez il y a quelques semaines dans le journal Inattendu sur RTL. Il y a un lien sacré entre nous.
Je pense que c'est une dernière... finalement épreuve, ou en tous les cas c'est un milieu où mon plus dur adversaire, ou celui que je redoute le plus, me sauvera peut-être un jour la vie, ou moi je lui sauverai la vie. Donc il y a un rapport entre nous qui est sacré, il y a un rapport entre nous qui garde cette authenticité des gens de mer comme des gens de montagne. Et ce qu'il y a d'assez merveilleux, ça c'est plus Saint-Exupéry qui parlait de ça, sans être dénigrant envers les gens qui n'avaient pas volé. Mais quand vous êtes marin, quand vous avez traversé ou quand vous avez vécu ce que vous avez vécu, votre adversaire, en fait, je sais qui sait que je sais. Ça, c'est ce que m'avait dit Hélène MacArthur à l'arrivée de son tour du monde. Et cette formule, elle est restée parce que mon adversaire me comprend peut-être mieux que les gens les plus proches dans ma famille.
Merci Thomas Coville d'avoir été notre invité en mer, donc ce soir face à Saint-Malo. C'est quand même assez rare, un invité sur les flots, ça n'arrive pas tous les jours dans RTL Soir. Et on remercie Frédéric Veil aussi pour la liaison technique qui était à vos côtés et qui a le pied marin visiblement. Merci Thomas et bonne entrée dans Saint-Malo tout à l'heure, régalez-vous.
Merci beaucoup et à très bientôt.
Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
Allez, toute petite pause avant la suite. Dans RTL Soir, il y aura vos dessous de l'actu. On va partir au Parc des Princes. Tiens, match à très haut risque ce soir en Ligue des Champions entre le PSG et les Israéliens d'Haïfa. On va vous expliquer pourquoi les forces de l'ordre sont sur les dents. Et puis, laissez-vous tenter dernière avec les finalistes du prix Goncourt. À tout de suite.
RTL Soir. Julien Cellier. RTL, s'informer ensemble.
Bonne fin de journée RTL Soir, il est 18h30.
RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais.
Et le rappel des 3 titres de l'actu qu'il faut retenir ce soir avec vous Marion Calais.
Des amendes d'ici 18 mois jusqu'à 68 euros. Les véhicules polluants qui braveront l'interdiction de circulation dans les centres-villes ayant mis en place une zone à faible émission seront bientôt sanctionnés et de façon automatique. Les premiers mots du Premier ministre britannique Rishi Sunak, il dit vouloir réparer Les erreurs de l'Istre, c'est prévient de décisions difficiles à venir. Et puis la préparation des JO 2024, 30 000 policiers et gendarmes mobilisés chaque jour pour assurer la sécurité, ce qu'a promis le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Et le temps pour demain, encore très chaud.
Oui, 18 à 24 degrés au nord, les températures remontent, 23 à 27 degrés dans le sud, même 29 à Ajaccio, côté ciel, beaucoup de soleil. Alors le matin, quelques exceptions, hein, au nord de la Loire, on aura des nuages, quelques gouttes également sur la Bretagne et les frontières du nord. Ce sera gris toute la journée sur le Languedoc et dans l'après-midi, encore quelques gouttes sur les bords de Manche et ailleurs du soleil.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et les dessous maintenant d'un match à haut risque. Ce sera dans 2h30 maintenant. Coup d'envoi de PSG Maccabi Haïfa et les policiers sont sur les dents. Ce soir, on va vous expliquer pourquoi avec nous l'un de nos spécialistes justement des forces de l'ordre et du maintien de l'ordre, Guillaume Chiesse. Bonsoir.
Bonsoir.
Et au Parc des Princes, notre reporter Arthur Pereira. Bonsoir Arthur.
Bonsoir.
Guillaume, tout d'abord, expliquez-nous quel est le contentieux entre supporters parisiens et israéliens.
Alors d'abord, il y a un ancien contentieux entre les clubs israéliens et le PSG avec en point d'orgue novembre 2006. À l'époque, Paris reçoit l'Hapoël Tel Aviv. À l'issue du match, des supporters du COP Boulogne, dont certains se revendiquaient néo-nazis, décident de s'attaquer aux visiteurs et un policier tue un supporter parisien en tentant de protéger un fan de l'Hapoël. Depuis, le contentieux a pris une tournure géopolitique selon une note de la préfecture de police que nous nous sommes procurés. Le risque ce soir vient de la présence de membres du CUP, le collectif Ultra Paris, notoirement proche de la mouvance pro-palestinienne, et face à eux des militants ultra-sionistes, des anciens de la Ligue de Défense Juive qui a été dissoute en 2014 et qui ont prévu de venir sécuriser entre guillemets le déplacement des supporters du Maccabi Haïfa.
Quel dispositif de maintien de l'ordre en place ce soir?
Alors il y aura au bas mot 800 policiers et gendarmes aux abords du stade, un dispositif supérieur à ce qui se fait généralement les soirs de matchs de Ligue des Champions. Le quota de supporters du Maccabi Haïfa est limité à 1650 personnes dans le parkage. Enfin, des policiers seront déployés en masse dans les transports en commun pour éviter tout affrontement à d'autres endroits de la capitale.
Arthur, vous êtes au Parc des Princes pour RTL. Arthur Pereira, est-ce que ce dispositif, il est déjà visible ?
Oui, des dizaines de camions de CRS entourent les abords de la porte K, là où se situe le parkage du Maccabi Haïfa. Des barrières de sécurité ont aussi été installées pour éviter tout débordement. Les 1650 supporters du club israélien, eux, ne sont pas encore arrivés. Arrivée du cortège prévu d'ici quelques minutes. Contrairement aux Parisiens qui défilent maillot sur le dos, écharpe autour du cou, aux couleurs du PSG. À 2h30 du coup d'envoi, l'ambiance est donc plutôt très calme.
Situation à suivre maintenant. Merci beaucoup Arthur. Merci Guillaume. PSG, Maccabi Haïfa, c'est à vivre sur RTL en intégralité. Prise d'antenne 20h45, coup d'envoi 21h.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Pour l'heure, il est 18h34.
Laissez-vous tenter dernière.
Et c'est donc Laissez-vous tenter dernière. 4, il ne sont plus que 4 en lice pour le plus prestigieux des prix littéraires français, le Goncourt, qui sera décerné la semaine prochaine, le 3 novembre. Bonsoir Bernard Lehu.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir Marion, bonsoir Julien.
Alors, qui sont ces heureux finalistes ?
Eh bien, deux hommes et deux femmes. Je vous propose de commencer par elle, Brigitte Giraud, pour Vivre vite chez Flammarion, sans doute le livre le plus bouleversant de la rentrée. On vous en a parlé ici dès le 5 septembre.
Studio, mais oui.
En 1999, le mari de la romancière se tue à moto. 20 ans plus tard, Brigitte Giraud cherche à donner enfin des réponses à toutes les questions sur les circonstances du drame qui la hante depuis deux décennies. Chloé Cormand, ensuite, avec Les Presque Sœurs, publiées au Seuil, une enquête pleine de sensibilité sur des enfants, des cousines de son père, victimes de la Shoah. Chloé Cormand est par ailleurs conseillère en charge des discours, autrement dit, la plume du ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye.
Alors, et du côté des hommes, Bernard ?
Giuliano da Ampoli pour Le Mage du Kremlin chez Gallimard. C'est un roman hors rentrée littéraire, puisque Paris, paru en avril, est déjà un succès. Da Ampoli, Italo-Suisse, a écrit directement en français l'itinéraire d'un conseiller occulte qui conduit Poutine au pouvoir. C'est un personnage fascinant, inspiré de la véritable éminence grise du chef du Kremlin, Vladimir Sourkov. Enfin, dernier des quatre finalistes, c'est un peu l'outsider, l'haïtien Mackenzie Orsel pour Une somme humaine chez Rivage. Par-delà la mort, une femme va nous raconter sa vie.
Cette dernière sélection a été annoncée, Bernard, à Beyrouth, à l'occasion de l'ouverture du salon du livre francophone. Et c'est là que vous avez joint l'écriture écrivain et secrétaire général de l'Académie Goncourt, Philippe Claudel.
On est dans un prix Goncourt qui reste très ouvert cette année. Il y a même un parmi nous qui pourrait dire quel va être le livre couronné. Très heureux aussi, et ça on n'a pas fait exprès, mais j'en suis toujours heureux, qu'il y ait deux femmes, deux hommes, donc une parité parfaite. Que la francophonie soit représentée aussi avec Mackenzie Orcel et Giuliano D'Ampoli.
Alors bien sûr, sans vous demander quel sera votre choix la semaine prochaine, mais est-ce que vous, Philippe Claudel, vous avez déjà votre intime conviction et votre lauréat?
Oui, je l'ai, mon cher Bernard. Je vais tout faire pour que le livre que je préfère triomphe, mais je ne suis pas seul. Nous avons un fonctionnement parfaitement démocratique. Mais je vous dirai le jour du concours si j'ai réussi à convaincre mes camarades.
Bien essayé, Saint-Bernard.
Toujours.
Et vous, Bernard, quel est votre lauréat, votre pronostic?
Alors, je dois dire que vraiment, mon cœur balance et je suis incapable de trancher entre Vivre vite de Brigitte Giraud et Le match du Kremlin de Giuliano D'Ampoli.
C'est trop facile, vous avez une chance sur deux. Là.
Ben, oui, dans deux registres différents, sont vraiment deux excellents livres. Non, je ne peux pas, je suis désolé. Rendez-vous en tout cas le 3 novembre à 12h45 en direct de chez Drouan.
Suspense jusqu'à la semaine prochaine. Merci beaucoup Bernard Lehu. Dans un instant, on va défaire le monde dans RTL Soir, les 20 minutes d'info autrement. Cyprien Sini, Nerissa Ebani et Laurent Tessier sont en train de choisir leur chaise en studio. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
Alors il y a du lithium sous nos pieds, immense gisement découvert dans l'Allier au moment où on en a plus que jamais besoin, par exemple pour les voitures électriques. Mais ça ressemble à quoi le lithium? Comment on l'extrait? Est-ce que ça pollue de l'extraire? On va répondre à toutes ces questions, à vos questions juste après ça, tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL. It's about damn time.